Europe 1, historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern.
Il a fait partie des fameux mousquetaires. Non, pas ceux de D'Artagnan dont on a parlé tout à l'heure avec Clémentine, mais ceux qui ont arraché la Coupe Davis aux Américains pour la première fois dans l'histoire du tennis. Il a mouillé la chemise sur tous les courts de la planète avant d'en couper les manches et de créer l'une des marques françaises les plus célèbres du monde encore aujourd'hui. Je vous raconte maintenant le crocodile René Lacoste. Nous sommes en juin 1929 et le moins qu'on puisse dire, c'est que les spectateurs des internationaux de France de tennis en ont eu pour leur argent ce samedi. Dans un stade Roland-Garros flambant neuf, René Lacoste et Jean Borotra remportent la finale en double face à deux autres Français, Jacques Brugnon et Henri Cochet. Le lendemain, les deux compères s'affrontent en simple dans une finale d'anthologie remportée par René Lacoste après 5-7 acharnés. Le jeune champion ne le sait pas, mais ce double triomphe est à la fois son chef-d'œuvre et son chant du cygne. Quelques mois plus tard, touché par des problèmes pulmonaires à répétition, il doit renoncer à sa carrière. Alors âgé de 25 ans, René Lacoste n'en affiche pas moins l'un des plus beaux palmarès du tennis français. En simple, il a déjà gagné 3 Roland-Garros, 2 US Open et 2 Wimbledon. En double, 2 titres à Roland-Garros, un autre à Wimbledon. Mais c'est en équipe qu'il est entré dans la légende en remportant pour la première fois la Coupe Davis avec 3 autres Français, Jean Borotra, le basque bondissant, Henri Cochet, le magicien et Jacques Brugnon, dit Toto. 4 Français qui ferraillent face à des adversaires redoutables. Il n'en faut pas davantage pour que la presse de l'époque s'empresse d'en appeler aux mannes d'Alexandre Dumas et leur trouve un surnom presque évident, les mousquetaires. À côté du basque bondissant, de Toto et du magicien, René Lacoste a lui aussi son surnom. Il est le crocodile, un animal dont il a d'abord fait son emblème avant d'en faire le logo d'une des marques les plus célèbres du monde. Pour comprendre comment le jeune homme de bonne famille est devenu le créateur du fameux polo Lacoste avec son petit crocodile vert, il faut remonter quelques années en arrière, en 1904. Cette année-là, René Lacoste voit le jour à Paris dans un milieu plutôt privilégié. Son père, Jean-Jules Lacoste, n'est autre que le grand patron de la branche française d'un constructeur de légende, Hispano Suiza, une marque spécialisée dans les voitures de course et les moteurs d'avion. On aime le sport et la technologie dans la famille et c'est donc presque naturellement que René s'oriente vers la crème des études d'ingénieur polytechnique. Mais très vite, le jeune homme est confronté à un dilemme. Il est doué pour les sciences, oui, mais pas seulement. René est un athlète incroyablement doué pour un sport en plein essor, le tennis. À 18 ans, il renonce à l'X pour se consacrer à cette petite balle jaune qu'il aime tant et qui va bien vite lui permettre de voir du pays. En 1923, René Lacoste est à Boston, aux États-Unis, pour un de ses premiers tournois. En flânant à travers la ville, le jeune tennisman s'arrête, l'œil attiré par une magnifique valise en cuir de crocodile. La légende veut qu'un de ses camarades, peut-être son entraîneur, Pierre Giloux, lui a alors promis de lui offrir le bagage de ses rêves à une condition, qu'il remporte son match le lendemain. René Lacoste a perdu, la fameuse valise lui est passée sous le nez. Pourtant, le surnom va rester, lui. Pourquoi ? Grâce à la plume d'un journaliste, que cette histoire de crocodile a marqué tant elle correspond au jeu de René Lacoste. Malgré son jeune âge, le jeune homme fait preuve d'une maturité redoutable sur un court. Là où tant d'autres parient sur la vitesse ou la force en se ruant à la volée pour finir le point, Lacoste est un animal à sang-froid, capable d'imposer de longs échanges à son vis-à-vis bien placé derrière sa ligne. Une fois l'adversaire usé par ses balles qui reviennent avec une régularité de métronome, René Lacoste déclenche soudain un coup clinique et fatal, capable de casser le mental et les reins de son opposant. Le crocodile est né. Et pour marquer le coup, René Lacoste affiche bien vite l'ancêtre du logo actuel à son revers, un alligator dessiné par le styliste Robert Georges. Mais René Lacoste n'est pas uniquement un calculateur sur le court. Même loin des terrains, le jeune homme se comporte en perfectionniste. Il est l'un des premiers tennismen à analyser méthodiquement son jeu et celui de ses adversaires pour améliorer ses points faibles et pour exploiter les leurs. C'est aussi un bricoleur né qui comprend vite que le matériel va prendre une place déterminante dans un sport qui se joue déjà de plus en plus vite et de plus en plus fort. De la forme du tamis à la tension du cordage, tout compte, jusqu'au dessin du manche qu'il retouche au canif, qu'il entoure de sparadrap pour éponger la sueur et l'empêcher de glisser. Ce petit détail qui en fait l'inventeur du grip moderne est typique d'un goût pour l'innovation qui va conduire à une petite révolution. Au milieu des années 20, le tennis reste le sport de la haute société et cela se voit jusque dans le choix des tenues. Les joueuses disputent leurs matchs avec de longues robes parce qu'il est impensable que les femmes puissent avoir des jambes, tandis que les hommes jouent en pantalon à pinces avec une ceinture et une chemise à manches longues. Élégant, certes, mais pas idéal quand on court dans tous les sens pendant des heures. Au lendemain de sa carrière, René Lacoste, qui est bien placé pour savoir à quel point il est désagréable de transpirer pendant l'effort et de se geler pendant les pauses, décide de changer la donne. Au début des années 30, alors que certains joueurs ont déjà commencé à retrousser leurs manches, René Lacoste décide carrément de les couper au milieu du bras. Avant de changer la manière dont on tisse le coton qui compose ce nouveau vêtement pour homme. Pour alléger le tissu, Lacoste choisit un point particulier, le jersey, et supprime presque tous les boutons de la chemise classique pour n'en garder que trois, les plus près du col. Fabriqué à trois, le premier polo est né avec son blanc éclatant. Le crocodile y trouve bien sûr sa place à gauche, sur la poitrine, au niveau du cœur. À Paris, la Fédération de tennis se dit scandalisée par une tenue choquante. Les seuls à exhiber leurs bras nus à cette époque sont les dockers, les paysans ou les portefaix. Mais du côté des athlètes, le polo séduit très vite. Le vêtement s'adapte aux sportifs. On peut enfin courir librement et la sueur cesse de tremper le lourd tissu des chemises de ville. Le polo s'est réinventé mille fois. Sa forme et son dessin ont changé avec le temps. Mais la marque Lacoste, elle, reste une des plus connues au monde avec son petit crocodile vert et rouge rigolard. À le voir partout, on en oublierait presque que René Lacoste n'a pas seulement inventé le polo, mais aussi le grip donc, ainsi que la machine à lancer des balles pour s'entraîner seul, la petite pastille qui permet de limiter les vibrations du cordage et même la première raquette en acier, celle qui a enterré les vieux cadres en bois au milieu des années 60. Jusqu'à sa mort en 1996, René Lacoste aura cherché un moyen de rendre service au sport qu'il avait fait roi. 5 ans plus tôt, en 1991, il aura eu la joie de voir la bande à Noah ramener le saladier d'argent à la maison.
Et c'est Henri Lecomte qui a donné ce point à l'équipe de France. Exceptionnel.
59 ans après la dernière victoire française en Coupe Davis, cette année-là, le dernier des mousquetaires avait enfin trouvé ses héritiers qui, comme lui, ont mouillé le polo.
Europe 1, historiquement vôtre.